Vous écoutez RTL.
6h30, 9h15.
RTL Matin avec Jérôme Chapuis.
Il est 7h46, Jérôme Chapuis, votre invité ce matin sur RTL, est sénateur des Républicains, maire de Troyes et président des maires de France. Et
bonjour François Baroin.
Bonjour.
Merci d'être sur RTL, juste avant de vous rendre tout à l'heure au Sénat pour cette conférence des territoires. Discours d'ouverture ce matin par le Premier ministre, discours de clôture cet après-midi par le Président. Et donc au moins un sujet de discorde, la suppression de la taxe d'habitation, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Vous continuez de vous y opposer, pour quelle raison ?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales est garanti et que la remise en cause de cet impôt, qui est un impôt qui crée un lien entre une commune et ses administrés, qui est un impôt qui permet de financer les services publics de proximité, qui est un impôt qui est injuste, personne ne le conteste, puisque ses bases n'ont pas été revalorisées depuis 1970. Mais on ne peut pas dire qu'il est injuste pour 80% et qu'il reste juste pour les 20% restants. Donc il y a la forme, le principe et puis les garanties qui sont proposées sur la compensation à l'euro de dotation.
Vous ne faites pas confiance au gouvernement pour compenser la perte de recettes que constituerait la suppression de la taxe d'habitation ?
Je ne fais pas confiance non pas à ce gouvernement, je ne fais pas confiance au gouvernement, à l'État, dans sa capacité à rembourser la suppression d'un impôt. Ce n'est pas le premier gouvernement qui veut supprimer
un impôt.
Vous
avez une mauvaise expérience ?
Oui, d'ailleurs ça s'est fait par des gouvernements de droite et de gauche. C'est une mauvaise idée parce qu'il faut conserver le caractère indépendant des collectivités locales. Les collectivités locales, elles travaillent pour l'État sur un certain nombre de missions, mais elles sont garanties dans leur liberté. C'est le principe de la décentralisation. La remise en cause, la suppression de la taxe d'habitation, c'est une remise en cause du principe de la décentralisation.
C'est une remise en cause de la décentralisation ? C'est une mise sous tutelle des communes par l'État ?
À la fin, en tout cas, plus de 60-65% de nos budgets dépendront des dotations. Et les 3 ans que nous venons de vivre ont été 3 ans horribles pour les collectivités locales vis-à-vis d'un État qui ne nous a pas entendus, qui ne nous a pas écoutés, qui a supprimé 30%. Je rappelle que dans le rapport de la Cour des comptes, la seule amélioration de la situation des dépenses publiques, des 3 sources de dépenses, elle vient des collectivités territoriales. Mais je rappelle surtout que si on réfléchit à l'échelle de la dette, pas un maire, sérieux, ne souhaite apporter sa contribution à l'assainissement des finances publiques. Mais 80% de la dette, c'est la responsabilité de l'État. 10%, c'est les collectivités locales. Et 4% seulement, ce sont les communes et les intercommunalités.
Donc vous dites, on a fait notre part de l'effort, c'est à l'État maintenant de...
Beaucoup plus. On a représenté plus de 34% de l'amélioration de l'effort de dépenses. L'État a fait 3 milliards, quand nous on en a fait 11, alors que les dépenses de l'État sont évidemment plus importantes que
celles des collectivités. Et là, il vous redemande 10 milliards d'euros encore pendant le quinquennat.
En plus, il redemande 10 milliards. Alors maintenant, sur la forme, je le dis, j'ai vu le président Macron la semaine dernière, ça s'est bien passé, on a parlé une heure, il souhaite un pacte, mais un pacte, c'est donnant-donnant, c'est une discussion entre partenaires, et on avance ensemble. Mmh. Il sait, non pas nos réserves, mais notre hostilité à la suppression de cette taxe. Maintenant, si l'État le fait, il faudra voir les modalités. Une fois encore, le principe de justice ou d'injustice, il est pour tout le monde, mais on ne va pas laisser 20% de gens dans un système considéré comme injuste par l'État, considéré comme injuste par les collectivités territoriales, et qui risque de se retrouver dans la situation exorbitante à porter le fardeau pour les autres.
Emmanuel Macron dit que de toute façon, ce sont les 20% les plus riches qui continueront de payer, payer la taxe d'habitation.
Oui, mais c'est pas une question de richesse, c'est une question de justice, c'est une question d'équité, c'est pas une question de pouvoir d'achat. Je rappelle qu'il y a déjà 42% des gens qui sont dégrévés de cette taxe d'habitation, partiellement ou totalement dans certaines villes. La mienne, par exemple, c'est à plus de 50%. C'est à raison de la richesse du territoire, du potentiel, le revenu fiscal, etc. Donc ces sujets-là sont des sujets de principe. Les menaces, elles sont lourdes, je le dis, pour notre capacité à être autonome. Elles sont lourdes parce que nous n'avons pas confiance dans la capacité de l'État à respecter sa parole, pas cet État, pas la présidence Macron, pas ce gouvernement.
C'est quand même important parce que Emmanuel Macron, il n'a jamais été élu avant d'être président. Est-ce qu'il peut comprendre toute la difficulté qu'il y a à diriger une collectivité locale ? Quand vous l'avez vu la semaine dernière ?
Oui, je pense qu'il peut le comprendre. C'est pas un exercice très difficile, mais c'est un exercice exigeant. Mais
une chose est de savoir comment ça se passe, autre chose est de l'avoir fait comme vous l'avez fait, comme Édouard Philippe, le Premier ministre, lui-même l'a fait au Havre.
Oui, moi je suis maire depuis 1995, donc ça fait un long moment. Je sais l'important, je n'ai pas augmenté les impôts depuis 18 ans. Je n'ai pas augmenté les impôts parce que je ne veux pas faire porter sur moins d'une partie de la population l'essentiel de l'effort pour financer le développement d'un territoire et des services publics. C'est donc bien un vrai sujet qui est devant nous. Cette question des dotations supplémentaires, nous ne sommes pas favorables, naturellement. Nous avons fait notre effort à l'État de mon montré le chemin au cadre de la sécurité sociale en général de produire l'effort. Nous avons fait notre effort. Je voudrais dire aussi qu'il n'y a plus assez d'investissement public. L'État fait très peu d'investissement public et 70% de l'effort de l'investissement public, c'est-à-dire ce qui tient l'artisanat, le bâtiment, les travaux publics, les TPE, tous les territoires, sachant que la moitié de la population française vit dans des communes de moins de 10 000 habitants, c'est bien un enjeu de territoire. Mmh. Il y a déjà une rupture, on l'a vu électoralement, entre ce qui est les métropoles et le reste du monde.
C'est-à-dire mais vous entendez ce qu'a dû vous dire Emmanuel Macron, c'est-à-dire nous, on est d'accord pour investir, mais à condition que vous, les collectivités locales, vous fassiez des efforts et vous baissiez vos dépenses.
Mais les dépenses, elles ont été baissées d'ailleurs quand vous...
Il dit c'est donnant-donnant.
Mais c'est donnant-donnant sur une base qui doit être objective. C'est l'objet de la Conférence nationale des territoires. Mmh. Tout ne peut pas être avant sur la table. Ensuite, le président de la République arrive, il prononce son discours, et puis maintenant, débrouillez-vous, monsieur le gouvernement, avec les représentants des élus locaux. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut une discussion, il faut une avancée. Je veux croire que s'il nous a reçus au préalable, c'est qu'il a bien aussi entendu les messages. Moi, je souhaite aussi qu'on défende la ruralité. On ne peut pas se contenter de supprimer la fiscalité locale, de constater nos services publics qui disparaissent, le désert médical, et au milieu des territoires qui veulent se lever, qui demande à rebondir. Donc j'ai formulé des propositions.
Et lesquelles, justement, sur la ruralité ?
Un moratoire sur la fermeture des services publics locaux, c'est-à-dire on arrête de fermer les écoles, on arrête de fermer tous les services publics, on arrête de fermer toutes les dépendances des opérateurs. La création d'une agence nationale de renouvellement de nos territoires, c'est-à-dire l'équivalent d'un ANRU. Vous savez, l'ANRU, c'est une agence opérateur créée par Jean-Louis Borloo, sous la présidence de Jacques Chirac, qui avait une vision pour rétablir la cohésion sociale dans nos quartiers en difficulté. On a créé une structure qui fonctionne bien, et qui permettrait, le temps de la montée en puissance de cette structure, de préserver nos services publics locaux et d'équilibrer les territoires. Le risque, la crainte que nous avons, c'est que ce soit tout pour les métropoles, que sur le plan du financement, on perde notre liberté et notre autonomie, c'est-à-dire une remise en cause de la décentralisation. J'ai d'ailleurs attiré l'attention du président de la République sur le risque constitutionnel qu'il prend, parce que nous sommes déjà à limite. Et à un moment, quand on passe sous la ligne de flottaison, la remise en cause du principe de l'article 72 de notre Constitution sera de la responsabilité du gouvernement. Il ne peut pas prendre ce risque-là.
Donc cette, pour être très concret, cette taxe d'habitation, cette suppression de la taxe d'habitation, elle pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel, selon vous ?
En tout cas, je ne doute pas une seule seconde que si l'état actuel des propositions, qui sont les engagements du président Macron, et je peux comprendre qu'ayant pris cet engagement, il souhaite le tenir. Mais je pense qu'il est précieux, en responsabilité, de bien mesurer les avantages, les inconvénients et les risques. Le risque constitutionnel existe, les avantages sont assez limités, et les inconvénients sont quand même immenses. Je pense qu'il aurait mieux valu poursuivre ce que nous avions lancé en notre temps, même si ça fait déjà un petit moment, lorsqu'en 2010, on avait mis en place un groupe de travail pour revaloriser les bases. Mmh. Je pense qu'un calendrier en sifflet sur 6-7 ans qui revalorise les bases, pas évolué depuis 70. C'est-à-dire pour ça
fait 70 ans qu'il y a oui, effectivement plus de revalorisation de la base qui permet de
C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup d'investissements qui ont été menés dans un certain nombre de quartiers, dans certaines villes, mais les références datent de 1970. Mmh. Donc il est évident que c'est inéquitable. Et il est évident que c'est inéquitable à l'intérieur d'un même territoire, mais c'est inéquitable également d'un territoire à l'autre. Donc ça, on peut le toiletter, mais en travaillant les bases, et puis ensuite en discutant éventuellement des orientations et du lien. Alors, rappelle que ce lien, il n'est quand même pas neutre, il est important. Parce que sinon, on remet aussi en cause le principe du consentement à l'impôt. Pourquoi juste cette taxe ? Il y a d'autres taxes, d'autres impôts qui sont injustes.
Un mot de votre famille politique, François Baroin. Vous aviez dit, vous, avant la primaire, c'est pas l'heure pour ma génération, et c'est comme ça que vous justifiez votre volonté de ne pas vous présenter face aux Juppé, Fillon, Sarkozy. Est-ce que vous avez des regrets avec le recul ?
Non, j'ai pas de regrets. De toute façon, ça sert à rien. Il faut regarder devant, pas derrière. On est arrivé ce qui est arrivé.
Est-ce que vous vous dites, vous, le train de la présidentielle, pour moi, il est passé ?
Bon, je ne suis pas en train non plus de compter complètement mes points retraite, mais je vais changer la nature de mon engagement politique, c'est sûr. Je vais me battre pour nos territoires, j'y crois. C'est une certaine idée du développement de notre pays équilibré. J'ai dit il y a très longtemps que je n'étais pas candidat à la présidence du parti. Je ne l'étais pas non plus il y a 3 ou 4 ans, d'ailleurs, lorsque Nicolas Sarkozy s'est présenté. Voilà, il faut se réinventer, se renouveler. Je pense qu'on a une génération qui est assez formidable de 2014. J'ai mené législative, j'ai vu des candidats extraordinaires. Je leur demande juste de s'accrocher, de se battre, de se lever. Puis c'est à eux de reconstruire pour une
s'inventer, se renouveler. Laurent Wauquiez est la bonne personnalité pour ça ?
je ne prendrai pas de position sur l'avenir du parti. Je suis un militant parmi d'autres et je changerai un peu l'orientation de mon engagement militant.
C'est-à-dire vous prendrez, votre engagement prendra une forme différente?
Je vais me consacrer à ma ville, je quitte le Parlement fin septembre et j'adore nos territoires et je vais continuer ce combat.
Je vous écoute et je sens, alors que c'était une ambition qu'on vous prêtait, que vous ne regardez plus du côté de l'Élysée.
Je n'ai jamais affirmé publiquement, j'ai accompagné ma famille politique, on a perdu, maintenant c'est derrière, il y a un gouvernement, il y a un nouveau président, à lui de travailler dans la bonne direction pour le pays, et puis il sera jugé par les Français dans quelques années.
Et les premiers pas justement de ce président, quel jugement vous portez dessus ?
Écoutez, il est très actif, il vient après Hollande, il faut dire les choses, l'image n'était pas valorisante à l'étranger, donc son âge, son état civil, son savoir-faire sur le plan international donne plutôt une bonne valorisation de l'image de notre pays. Pour le reste, il y a des gros sujets, le gouvernement n'a pas de poids lourd, Richard Ferrand, François Bayrou ont quitté le gouvernement pour les raisons que nous savons, donc les deux piliers de la construction de la majorité d'Emmanuel Macron ont disparu, il y a beaucoup d'incertitudes, par exemple le sujet que nous traitons aujourd'hui est un sujet majeur, si je me réjouis de la méthode, c'est-à-dire le principe d'une conférence nationale des territoires, que le président de la République a repris sur les propositions de l'AMF, des maires de France. Je m'inquiète en revanche des propositions et c'est notre journée de travail à ses côtés.
On vous a bien entendu là-dessus. Merci beaucoup. Merci. François Baroin d'avoir été l'invité de RTL ce matin à quelques heures donc de cette conférence des territoires au Sénat.